privilégiés. Où pour la première fois, nous allons probablement voir l'IA dépasser l'être humain dans de très nombreux domaines. Si ce n'est dans tous les domaines importants. Ça va tout changer. Une nouvelle forme de vie est en train de voir le jour.
Jürgen Schmidhuber est surnommé le père de l'IA. Son travail a transformé l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle en permettant la reconnaissance faciale et vocale qui sont utilisées par des milliards de personnes dans le monde.
When I was a boy,
petit, je me demandais comment maximiser mon impact sur le monde. Il m'est apparu que je devais fabriquer une chose qui allait apprendre à devenir plus intelligente que moi, afin que je puisse me reposer sur mes lauriers, tandis qu'elle continuerait à s'auto-améliorer et qu'elle résoudrait tous les problèmes que je serais incapable de résoudre. Multiplier à l'infini cette minuscule pointe de créativité qui est la mienne. Voilà ce qui m'anime depuis lors. Comment s'y prend-on pour concevoir une intelligence artificielle multispécialisée? Pour qu'elle soit intelligente, elle doit être capable de reconnaître des paroles, des images, une écriture manuscrite, des visages, toutes sortes de choses. Et sur ce point, nous avons fait d'énormes progrès. Prenez les LSTM, les réseaux de neurones récurrents à longue mémoire à court terme que nous avons développés dans nos laboratoires à Munich et en Suisse. On les utilise aujourd'hui pour la reconnaissance vocale, vidéo, ainsi que pour la traduction. On les retrouve dans tous les smartphones. Près d'un milliard d'iPhones et plus de 2 milliards de téléphones Android. En cheminant vers notre objectif, nous générons donc toutes sortes de produits dérivés utiles. Cet objectif principal, c'est une intelligence artificielle générale, une IA capable d'apprendre et améliorer d'elle-même l'algorithme d'apprentissage. En gros, elle peut apprendre à perfectionner son processus d'apprentissage, et ce de manière répétée et quasi infinie, sans autre frein que les limites fondamentales de la calculabilité. Nous l'utilisons pour nos recherches sur la curiosité artificielle. Nous tentons de lui enseigner à apprendre par lui-même. Un bébé, il explore le monde qui l'entoure avec curiosité. C'est ainsi qu'il découvre, par exemple, comment fonctionne la gravité et comment certaines choses tombent. En apprenant à poser des questions sur le monde et à y répondre, il apprend à résoudre toujours plus de problèmes de tous ordres. Nos systèmes artificiels apprennent donc également à poser toutes sortes de questions, et pas uniquement à répondre à celles que leur posent les humains. Donner à l'IA la liberté d'inventer ses propres tâches. Si on ne le fait pas, elle ne deviendra pas beaucoup plus intelligente. D'un autre côté, il est très difficile de prédire ce qu'elle va faire.
La technologie est une force de la nature. Je vois de nombreuses similarités entre elle et l'évolution biologique. Se prendre pour Dieu. C'est ce dont on accuse depuis longtemps les scientifiques. Et en l'occurrence, c'est tout à fait fondé, dans la mesure où nous créons quelque chose de très différent de tout ce que nous avons créé jusqu'ici.
Ilya Sutskever est un intellectuel d'une créativité exceptionnelle et a été le moteur d'avancées historiques dans le domaine de l'apprentissage profond et de l'IA. Il a été recruté par Elon Musk pour diriger OpenAI, l'un des plus importants laboratoires de recherche sur l'IA.
Je restais très jeune à l'IA. Puis à l'apprentissage automatique en particulier.
Qu'est-ce que l'expérience? L'apprentissage? La pensée? Comment fonctionne le cerveau? Ce sont des questions philosophiques, mais comme on peut inventer des algorithmes capables à la fois de faire des choses utiles et de nous aider à répondre à ces questions, c'est en quelque sorte de la philosophie appliquée. L'intelligence artificielle générale, ou IAG, est un système informatique en mesure d'accomplir n'importe quelle tâche effectuée par un être humain, mais mieux. Nous serons indéniablement capables de créer des êtres totalement autonomes qui poursuivront leurs propres objectifs. Et puisque ces êtres deviendront plus intelligents que les humains, il sera crucial que leurs objectifs soient en adéquation avec les nôtres. Créer une IA ouverte. Nous voulons être à la pointe de la recherche et orienter celle-ci dès le départ pour maximiser les chances que l'avenir soit bon pour les humains. L'IA est une très bonne chose, car elle va résoudre tous nos problèmes actuels. Le chômage, la maladie, ou encore la pauvreté. Et aussi de nouveau. Je crois que le problème des fake news sera des millions de fois plus grave. Les cyberattaques seront bien plus violentes. Et nous aurons des armes intelligentes entièrement automatisées. L'IA a le potentiel de créer des dictatures infiniment stables. 10 ou 15 ans, les systèmes seront considérablement plus intelligents. Et il est fort probable qu'ils bouleversent radicalement notre société. Sera-t-il au bénéfice des humains? Et si oui, qui en profitera?
En 2012, IBM a estimé qu'une personne génère en moyenne 500 mégabits d'empreintes numériques chaque jour. Imaginez maintenant que vous vouliez sauvegarder sur papier une journée de données que l'humanité laisse derrière elle. Quelle taille ferait selon vous la pile de feuilles qui en résulterait? 4 fois la distance Terre-Soleil. En 2025, nous générerons quotidiennement 62 gigabits de données par personne.
Mihaouk, le plus controversé de notre temps. Ses recherches révolutionnaires ont inspiré les méthodes de société telles que Cambridge Analytica.
Nous laissons des tonnes d'empreintes numériques au cours de notre vie. Elles alimentent les algorithmes informatiques et leur donnent une bonne idée de notre personnalité, de nos désirs et de nos activités. J'ai étudié différents types d'empreintes numériques, telles que les likes sur Facebook, le niveau de langage, les relevés de cartes bancaires, les historiques de navigation et de recherche. Et à chaque fois, j'ai découvert qu'en collectant suffisamment de ces données, on pouvait prédire avec précision le futur comportement d'une personne et déduire des traits intimes de sa personnalité. Cela peut être utilisé à très bon escient, mais cela peut également servir à manipuler les gens. Facebook transmet chaque jour des informations à plus de 2 milliards de personnes. Si vous modifiez légèrement le fonctionnement de son algorithme, vous pouvez influencer l'opinion, et par là même, le vote de millions de personnes. Un politicien n'est pas en mesure de deviner quel message ses électeurs ou électrices vont aimer. Mais un ordinateur peut voir quel message politique est susceptible de convaincre telle ou telle personne.
Ladies and gentlemen, it's my privilege to speak to you today about the power of big data and psychographics in the electoral process.
Analytica a récolté les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs de Facebook à leur insu.
L'analyse de données engagée pour la campagne présidentielle de Donald Trump a utilisé des données obtenues en secret pour cibler directement de potentiels électeurs.
Ils affirment pouvoir ainsi prédire la personnalité de chaque citoyen adulte aux États-Unis.
Nous allons parler de Cambridge Analytica avec le lanceur d'alerte Christopher Wiley.
On travaillait sur des programmes qui récoltaient des données, qu'on passait ensuite dans des algorithmes capables d'établir le profil psychologique des personnes afin d'exploiter les vulnérabilités mentales mises en évidence.
Cambridge Analytica a dit un jour que leur modèle reprenait mes travaux. Mais ce n'est qu'une des centaines de sociétés qui utilisent de telles méthodes pour cibler les électeurs. Les journalistes me demandent ce que ça me fait d'avoir fait élire Trump et d'avoir soutenu le Brexit. Que voulez-vous répondre à cela? Je suppose que je dois accepter d'être tenu responsable de tout ça.
Cette technologie devait être un moyen de démocratisation. Un moyen de faire le bien et qui permet aux humains d'interagir entre eux sans barrière. Grande expérience de communication qu'ait jamais connue la race humaine. Mais qu'arrive-t-il quand tout le monde a son mot à dire? On pourrait croire que c'est une bonne chose, que cela favorise la démocratie, le débat et la tolérance. Sauf que ces systèmes ont été détournés. Facebook gère une grande partie de nos communications. Pareil pour Google. Tout ce que vous voulez savoir sur le monde vient d'eux. On a affaire à une économie mondiale de l'information contrôlée par un cercle restreint de personnes.
Les plus riches du monde sont toutes des entreprises de technologie. Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. C'est stupéfiant de voir que depuis une petite dizaine d'années maintenant, les entreprises les plus puissantes sont spécialisées dans le commerce de données numériques. Bit et octets sont la nouvelle monnaie.
Tout autour de nous, même si on ne le voit pas, les données sont monétisées. Google dispose de toutes les informations possibles. Ils suivent les gens à la trace grâce à leur GPS. Ils connaissent tout leur historique de recherche et leurs préférences politiques. L'historique de recherche à lui seul peut tout dire d'un individu, de ses problèmes de santé à ses préférences sexuelles. La portée de Google est illimitée.
Google et Facebook sont devenus d'énormes systèmes de surveillance. Et en fait, ce sont aussi des courtiers en publicité. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ce sont des courtiers high-tech. S'ils sont si rentables, c'est parce qu'ils recourent à l'intelligence artificielle pour traiter toutes ces données vous concernant. Et pour vous mettre ensuite en relation avec l'annonceur qui cherche à atteindre des gens comme vous pour passer un quelconque message.
L'un des problèmes avec ces technologies, c'est qu'elles sont conçues pour être addictives, pour vous captiver et vous tenir en haleine. Les entreprises qui les produisent veulent en faire des machines à sous de l'attention. Ainsi, on ne les lâche plus, on est enfermé dans leur monde et on passe son temps à y jeter un œil.
Quand quelqu'un contrôle ce que vous lisez, il contrôle aussi ce que vous pensez. On vous montre plus de choses, du même type que celles que vous avez déjà vues, parce que ça génère plus de clics et donc de publicité. Mais ça vous enferme dans une chambre d'écho, d'où cette polarisation à laquelle on assiste aujourd'hui.
Le candidat brésilien d'extrême droite, souvent comparé à Donald Trump, a remporté l'élection présidentielle la plus polarisée depuis des décennies.
Bolsonaro!
On assiste à une polarisation des conflits. Elle est en partie provoquée par des algorithmes qui ont remarqué que l'extrémisme politique ou le tribalisme, qui consiste à encourager son équipe et en tirer du plaisir, sont addictifs.
Augmenterait la tension portée aux crimes de haine dans le monde.
Les gens se radicalisent à force de végéter dans le marais fébrile de l'Internet.
Est-ce un tournant pour les géants du numérique? Sont-ils enfin prêts à prendre leurs responsabilités concernant ce qu'ils partagent avec le monde?
Si vous développez à grande échelle une puissante technologie qui enferme, comme Google et Facebook qui peuvent atteindre des millions de personnes, et si votre intelligence artificielle stimule une polarisation, c'est la porte ouverte à un soulèvement mondial.
Intelligence artificielle générale, l'IAG. Imaginez que vous ayez 1000 amis aussi intelligents que votre ami le plus intelligent et qui réfléchissent chacun des milliers de fois plus rapidement. Ce qui nous demande 3 ans de réflexion ne leur prendrait qu'une journée. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire si on arrivait à réaliser en une journée l'équivalent de 3 ans de travail? C'est exagéré de dire que ce que nous vivons actuellement est plus excitant encore que ce qu'ont vécu tous les physiciens quantiques du début du XXe siècle. Et ils ont découvert l'énergie nucléaire. Je me sens extrêmement chanceux d'être partie prenante à cela. Les spécialistes de l'apprentissage automatique, des gens très cultivés et expérimentés, sont très sceptiques et se demandent quand l'IAG va voir le jour et si seulement elle le pourra. Mais encore peu de gens se rendent compte que les ordinateurs pour les réseaux de neurones artificiels, pour l'IA, vont devenir peut-être des milliers de fois plus rapides d'ici seulement quelques années. Pendant longtemps, le secteur du hardware ne savait pas comment aller plus loin. Mais maintenant que ces réseaux de neurones artificiels sont opérationnels, on peut construire de gigantesques ordinateurs. On peut construire un cerveau en silicium, c'est possible. Les premières IAG seront en fait de très très gros data centers, équipés de processeurs à réseaux de neurones artificiels spécialisés, travaillant en parallèle. Cet ensemble sera gourmand en énergie et consommera autant que 10 millions de foyers. Mets-moi un sandwich au bœuf, histoire de changer un peu. Même les premières IAG seront incroyablement plus performantes que nous. Les humains perdront leur utilité économique dans pratiquement tous les domaines. Pourquoi employer quelqu'un si un ordinateur peut faire son travail bien mieux et à bien moindre frais? L'IAG sera, à n'en pas douter, la technologie la plus importante de l'histoire de la planète, et de loin. L'électricité, le nucléaire, et l'Internet réunis. Concevoir une IAG est la finalité de l'informatique et de la science. C'est l'aboutissement ultime. On va la fabriquer, et ce sera une nouvelle forme de vie.
Obsolète depuis un siècle. Le travail mental routinier est aussi en train de le devenir à vitesse grand V, d'où la disparition actuelle de nombreux emplois de la classe moyenne.
Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, Apple is reinventing the phone.
Artificiel nous entoure déjà. La liste des choses que nous faisons mieux que les machines diminue assez rapidement.
Les voitures sans chauffeur sont super et vont probablement réduire les accidents de la route. Mais à côté de ça, elles vont engendrer la disparition de 10 millions d'emplois rien qu'aux États-Unis.
L'égalité risque très fort de générer des tensions et des conflits sociaux.
L'IAG peut exercer n'importe quel métier mieux que nous. Ceux qui prétendent qu'il existera toujours des emplois que les hommes feront mieux prennent le pari que la science ne parviendra jamais à créer une IAG.
Comme si on était dans un train qui foncerait à toute allure dans un tunnel obscur et que le conducteur dormait aux manettes.
Une grande partie des empreintes numériques que nous laissons derrière nous sont des images. Ce qui m'intéresse particulièrement, en tant que psychologue, ce sont les photos de visage. On peut voir la différence entre les traits d'un homosexuel moyen et d'un hétérosexuel moyen. On constate que chez les hommes, les hétérosexuels ont une mâchoire légèrement plus large que les homosexuels, alors que chez les femmes, c'est l'inverse. Les algorithmes informatiques peuvent révéler nos opinions politiques, notre orientation sexuelle ou notre niveau d'intelligence à partir d'un simple portrait de nous. Même un cerveau humain peut distinguer un homosexuel d'un hétérosexuel avec une certaine exactitude. Mais là encore, l'ordinateur est capable de le faire avec une bien meilleure précision. En l'occurrence, celle d'un logiciel de reconnaissance faciale en vente libre. Nouvelle pour tous les homosexuels du monde. Mais pas seulement pour eux. Car cet algorithme peut aussi détecter si vous êtes dans l'opposition, si vous êtes libéral ou athée. Et en Arabie Saoudite, par exemple, être athée est passible de la peine de mort. Je me dois d'avertir la population des dangers que représentent les algorithmes capables de révéler nos traits intimes. Le problème, c'est que quand les gens reçoivent de mauvaises nouvelles, ils préfèrent souvent les ignorer. C'est un peu effrayant quand du jour au lendemain, vous recevez des menaces de mort. Et j'en ai reçu quelques-unes. Mais en tant que scientifique, je dois montrer ce qu'il est possible de faire. Maintenant de voir si on peut déduire d'autres caractéristiques à partir d'un visage. Si on peut détecter qu'une personne est dépressive ou suicidaire, les caméras de surveillance d'une gare pourraient peut-être sauver des vies. Qu'arriverait-il si l'on parvenait à prévoir qu'une personne a des prédispositions au crime ? À l'école, vous aviez probablement un psychologue dont le rôle était d'identifier les enfants susceptibles de présenter des problèmes de comportement. Maintenant, que vous puissiez